Libre-échange avec Tamir Olfi.
Ravi de vous retrouver cette semaine et comme chaque semaine, j'invite à mes côtés un dirigeant d'une entreprise pour nous parler de son secteur, voire aussi son actualité, en présence d'un journaliste de La Vie Éco. C'est Mehdi Moutalib qui a fait le déplacement cette semaine. Merci beaucoup, mon cher Mehdi.
Je vous en prie.
Ça va, tout va bien ?
Très bien.
Ça fait longtemps qu'on vous a pas eu dans nos studios.
Oui.
Bon, on va parler cette semaine d'un secteur qui concerne toutes les citoyennes et tous les citoyens. Il s'agit de la santé, votre santé, puisque nous allons parler d'investissement dans le domaine des cliniques privées, des hôpitaux privés.
L'invité de la semaine.
Notre invité est le docteur Rojdi Talib, qui est président directeur général de Acdital Holding. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, docteur.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Rolfi.
Alors, vous êtes président directeur général d'une entreprise. Donc, comment vous définissez votre métier, si je vous demandais de nous l'expliquer simplement, pour les auditrices et les auditeurs d'Aswat?
En deux mots, je suis un producteur de soins, un médecin producteur de soins.
Et les entreprises que vous dirigez, que vous créez, qu'est-ce qu'elles font? Elles produisent des soins?
Elles produisent tout à fait des soins. C'est leur métier.
Et alors, ils ont des spécificités, c'est-à-dire des soins de tout type, quelques types de soins. Ça concerne une partie de la population, des femmes, des hommes, des âgés, pas âgés, pour tout le monde.
C'est des infrastructures multidisciplinaires qui répondent à un certain nombre de normes et puis qui touchent toutes les pathologies qui puissent exister sur Terre.
Vous êtes vous-même médecin, anesthésiste et réanimateur. Vous avez pratiqué pendant de très longues années.
Pendant 25 ans.
Et comment est-ce qu'on se convertit de l'anesthésiste réanimateur qui travaille avec les patients tous les jours à celui qui dirige? Et on va parler de vos investissements. Tabarakallah alaykoum, vous avez réalisé de belles choses, on va en parler. Comment est-ce qu'on se convertit?
Ben écoutez, après mon retour de France, après une formation à Paris, quand je suis retourné au Maroc, j'ai travaillé dans une petite structure où j'avais senti une certaine frustration parce que c'était une structure qui était spécialisée et qui manquait d'un certain nombre d'appareils et de normes, on va dire.
Et de moyens.
Moyens humains et matériels. Ce qui fait que je me suis senti pendant une dizaine d'années très frustré. Et je me suis dit, il faut que je relève le défi de monter une structure qui répond aux normes et qui répond à mes attentes. Et là, aux attentes des citoyens et des patients marocains.
Alors aujourd'hui, vous avez dans Acdital Holding une stratégie d'investissement. Vous êtes aujourd'hui dans votre groupe propriétaire d'un certain nombre de cliniques et vous avez des projets en cours. Alors pour commencer, vous êtes propriétaire de cliniques où, dans quelle ville? Et quelle est la taille de ce qui existe déjà?
On est propriétaire de 5 établissements de soins qui sont répartis actuellement là, sur le territoire du Grand Casablanca. On offre actuellement 550 lits, dont une centaine de lits de réanimation et de soins intensifs, et avec des plateaux de radiologie complets allant du scanner, l'IRM. Toutes les cliniques sont équipées de telle sorte à ce que le malade soit pris en charge de A à Z quand il rentre dans nos structures. Et là, c'est pour l'actuel, mais par contre, dans l'avenir, là, on va être présent dans différentes régions du Maroc, à savoir la région d'Abdoukala et puis dans la région du Nord à Tanger, Inch'Allah.
Vous êtes propriétaire de 5 cliniques et vous annoncez dans votre groupe Acdital Holding un investissement de l'ordre de 500 millions de dirhams avec un plan d'investissement qui vous mène jusqu'à 2022.
Tout à fait.
Alors, vous nous annoncez deux investissements dans le Nord et dans la région d'Abda. Pourquoi ces régions et quelle est la nature de ces investissements?
C'est tout simplement, dans la région d'Abda Doukala, on est en cours de construction. On a commencé la construction il y a quelques mois d'un grand hôpital privé qui va offrir 200, quelque chose comme 220 lits pour la population de la région. Où il y a un manque de certaines spécialités comme dans le domaine de la chirurgie cardiaque ou la cardiologie interventionnelle, dans le domaine de l'oncologie et cancérologie. Pareillement pour la région de Tanger, la région du Nord, on va ouvrir un complexe hospitalier dont les travaux vont commencer dans les mois à venir, qui est en cours de conception. Le terrain, il est déjà acquis et on est en train de faire les plans, de fignoler les plans là, pour être au rendez-vous du premier coup de pioche pour le mois de mars-avril, Inch'Allah, l'année prochaine.
Les établissements sont projetés d'être ouverts vers quelle période?
Pour celui d'El Jadida, c'est à la fin de l'année 2020, début 2021. Et celui de Tanger pour fin 2021, début 2022.
On va échanger avec vous sur comment on gère ce type d'établissement, quelles sont les spécificités. En quoi consiste votre offre aujourd'hui par rapport à ce qui existe? Mais tout cela va faire l'objet de notre discussion. Je donne la parole à Mehdi Moutalib Lavieco.
Sur votre éclatement régional, justement, comment vous faites pour choisir une région? Quels sont vos critères de sélection? Et quels sont vos autres investissements au-delà des deux investissements que vous venez d'évoquer?
Les critères sont simples. L'offre actuelle dans le secteur de la santé en général, il reste faible au Maroc. Donc, je parle de toute région confondue. On est en train de tourner autour de 0,9 lits pour 1000 habitants.
Ça veut dire moins d'un lit pour 1000 habitants.
Moins d'un lit pour 1000 habitants.
Quelles sont les normes internationales
On a fait un benchmark récemment et puis on a vu chez nos amis les Tunisiens, ils sont à 6,5 lits par 1000 habitants. En France, c'est 7,5. Au Sénégal, c'est quelque chose comme 1,5 à 2 lits qui nous dépassent déjà. Donc on est vraiment en dessous des normes internationales actuelles. Notre objectif, c'est d'offrir pas uniquement des lits pour faire des lits, non, mais surtout offrir des lits dans un contexte et dans un cadre bien déterminé, selon un cahier de charges bien précis, en essayant de répondre aux normes internationales avec des plateaux techniques au niveau, ou comme je vous ai dit tout à l'heure, là, que le patient rentre et qu'il soit pris en charge de A à Z, qu'on ne le transfère pas ailleurs là, pour subir tel examen ou telle exploration pour revenir avec tous les moyens, avec tous les risques que ça comporte pour un malade, par exemple, fatigué, qui relève de la réanimation, pour le faire sortir, pour faire une IRM ailleurs et le faire revenir, ou faire une dialyse ailleurs et le faire revenir. Tout ça, ça comporte des risques.
C'est-à-dire avoir une solution intégrée.
Intégrée, tout à fait.
Docteur Roger Talib, je rappelle pour nos invités qui viennent se joindre à nous dans Libre-Échange sur Assoit, que vous êtes le président directeur général de Agdital Holding, nous sommes en train de parler de vos investissements. Comment on gère un établissement de ce type-là? Parce que ça doit être très complexe d'avoir autant de solutions pour tous les types de maladies ou de situations qu'on doit, auxquelles vous allez pouvoir faire face.
Comme vous l'avez dit au début, je suis anesthésiste réanimateur. Et anesthésiste réanimateur, c'est une spécialité qui m'a permis de toucher un peu à toutes les spécialités, surtout chirurgicales, comme j'endormais tous les malades, que ce soit pour chirurgie, neurochirurgie ou autre, ou l'ophtalmo. Je touchais un peu à peu près à toutes les spécialités. Et ça m'a permis de tisser des liens très, très, très importants avec mes confrères chirurgiens et des médecins d'autres spécialités, des cardiologues, des pneumologues et ainsi de suite. Ce qui fait que j'ai réussi quand même à avoir un carnet d'adresses très, très bien garni. Autant que médecin et avec mes confrères là, qui représentent actuellement quelque chose comme 450 à 500 médecins qui pratiquent dans les différentes cliniques du groupe à l'échelle de Casablanca. Et ce n'est que le début. Hein. On va essayer quand même de faire fédérer. Et un bon anesthésiste réanimateur, c'est un anesthésiste qui gère le stress des chirurgiens en premier. Donc avant de gérer le stress des malades
c'est
eux-mêmes.
C'est une compétence très utile.
Très utile.
De gérer le stress des autres médecins, stress des malades. Donc c'est un atout pour être dirigeant d'entreprise.
Donc ça m'a permis quand même d'avoir un carnet d'adresses, comme je vous ai dit, qui est assez important là, pour pouvoir faire fédérer et avoir la conscience de la réussite de mes projets. Donc sans ces ingrédients qui sont très importants, qui sont les médecins, et les compétences, alhamdoulilah, dont on dispose dans différentes structures, ça nous a permis quand même d'attaquer ces entreprises avec aisance et confiance, beaucoup de confiance. Et
si on comprend bien, vous nous dites que le Maroc est en dessous des moyennes internationales en ce qui concerne le taux d'équipement des lits par habitant. 0,9, hein, on est très très faible. Très faible. Alors, et vous rajoutez, vous, un élément qualitatif. Vous dites qu'il faut avoir des lits, mais avec non seulement des lits, mais avec tout le dispositif et tous les moyens techniques qu'il faut. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose que l'État ait décidé à travers cette loi, je crois que c'est la 131-13 qui favorise l'investissement d'autres privés, autres que des médecins, dans ce secteur?
Oui, mais cette loi, elle a été faite effectivement pour l'ouverture des capitaux vers les non-médecins ou les investisseurs autres que médecins. Mais moi, j'en ai profité. Moi, personnellement, je trouvais que c'était une très bonne loi, même si elle n'a pas été très, très bien accueillie par mes confrères à l'époque. Moi, je me suis dit, c'est le moment de faire...
C'est une opportunité.
C'est une bonne opportunité. Mmh. Et j'en ai profité en quelque sorte là, pour pouvoir quand même... investir avec beaucoup de professionnalisme et surtout en connaissance de cause. C'est mon métier.
Faire des établissements à 250 lits, comme vous dites, avec tous les plateaux techniques, toute l'infrastructure médicale, comment on peut appeler ça, des hôpitaux privés?
Des hôpitaux privés,
tout à fait. Est-ce qu'il existe dans d'autres pays des modèles de ce type-là ou c'est quelque chose de spécifique parce qu'il y a un manque chez nous?
Non, non. Non, il y a dans tous les pays européens et même dans Tunisie, comme je le donne comme exemple. Je l'ai visité dernièrement, j'ai trouvé des hôpitaux privés qui sont à 280-300 lits. Donc c'est une habitude dans sous d'autres cieux qui ne pose aucun souci. Puis bon, au contraire, elle est bien, bien répandue dans des pays où il n'y a pas de manque de lits.
Mais dis-moi, Talib Lavieco.
Vous savez que au Maroc, s'agissant de la question des gestions des paiements par les patients, il existe plusieurs pratiques au noir, des pratiques qui ne sont pas très, très nettes. Comment gérez-vous cela à votre niveau ?
Notre niveau, c'est simple. On est en plein développement.
En fait, c'est pratique au noir. On ne sait pas si au noir, mais on va dire qu'il y a une partie du paiement qui est demandée en espèces. On ne sait pas comment c'est retraité. Il faut garder le bénéfice du doute. Mais concrètement, docteur, la question qui vous est posée là, c'est comment vous gérez-vous les relations avec vos patients quand il s'agit de payer ? Est-ce qu'on peut payer par chèque ? Est-ce qu'on peut payer par carte ?
La transparence la plus totale. On fait partie d'un groupe qui est en train de se développer et on a besoin de moyens financiers là pour pouvoir quand même réaliser nos projets. Donc on a besoin de fonds avec la transparence la plus totale. Les patients, ils sont invités à payer soit par carte, soit par chèque, soit en espèces. Même l'espèce, il est déclaré.
Oui, oui, bien sûr.
On a aucun complexe à ce niveau-là.
Ça veut dire que vous émettez des factures du même montant que ce qui est encaissé.
Tout à fait.
Voilà. Et c'est quelque chose d'arriver à gérer avec l'ensemble des 400 ou 500 médecins, par exemple, qui collaborent avec vous aujourd'hui.
Oui. Tout à fait, il n'y a aucun souci
ça
là-dessus.
Ça veut dire qu'on a une logique aussi de possibilité de transparence.
Il y a 70% des patients là qui viennent vers le secteur privé, c'est à hauteur de 60%, ils sont sous une couverture médicale. C'est-à-dire qu'ils ont une assurance maladie, déjà 60%. Et les 40% restants, c'est des gens qui, la plupart, demandent des factures avec un numéro et tout.
Bien sûr.
Même si, et puis bon, c'est pas dans les pratiques de groupe de demander quoi que ce soit en plus ou en moins. Ça, je parle en connaissance de cause.
Merci, docteur Rojdi Talib, de cette clarté dans vos propos. Je pense qu'on a aussi des exemples qui fonctionnent dans notre pays. Il faut mettre la lumière dessus. J'aimerais évoquer avec vous les opportunités qu'offrent des villes moyennes, parce que votre installation aujourd'hui, c'est 5 unités sur Casablanca. Vous êtes en train d'ouvrir dans le nord Tanger. Il y a une très belle dynamique économique. Alors, El Jadida, avec la région d'Abda, c'est pas loin de Casablanca et il y a aussi une bonne dynamique. Mais il y a des villes moyennes qui ont des vrais besoins. Est-ce que demain, vous irez aussi dans ces villes moyennes ? Comment voyez-vous ces opportunités ? Parce que nos auditeurs sont à Casa, mais sont aussi partout au Maroc.
Tout à fait. On aimerait bien. Malheureusement, il y a une réalité à laquelle on est affronté régulièrement, à savoir les ressources. Aussi bien ressources médicales que paramédicales. Médicales, bien entendu, il y a certaines spécialités où on n'a pas un manque. Dans les différentes villes moyennes, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire qu'on va trouver des bons chirurgiens viscéralistes, des bons chirurgiens orthopédistes, d'autres spécialités qui ne posent pas de problème. Mais il y a un certain nombre de spécialités, comme le groupe, quand il fait des cliniques ou des hôpitaux, il les fait selon un certain cahier de charge. Parmi les critères de ce cahier de charge, il y a quand même l'ouverture, la mise à disposition des patients d'un certain plateau complet avec une multidisciplinarité qui est exemplaire. Donc on ne peut pas ouvrir des hôpitaux alors qu'il n'y a pas un neurochirurgien ou il n'y a pas un chirurgien cardiovasculaire ou un cathétériseur cardiaque.
Ils ne pouvaient pas le faire venir d'ailleurs. Ça prendrait beaucoup de temps.
Et puis même le conseil de l'ordre ne nous permet pas de faire circuler le médecin, par exemple, une compétence qui se trouve à Casablanca et l'amener à Bni Mellal. Ouais. Parce que ce sont deux conseils d'ordre différents. Et la loi ne le permet pas. Pour le Jadida, par exemple, on a pu quand même ouvrir cet hôpital tout en ayant comme arrière-pensée pour certaines spécialités où il y a un manque dans la région, de les faire amener de Casablanca, parce que le conseil de l'ordre, c'est le même conseil de l'ordre pour la région de Grand Casablanca et Jadida et Abdat Kouala. Donc il n'y a aucun souci. Par contre,
Et qu'est-ce que l'État peut faire dans ces cas-là ?
L'État, qu'est-ce qu'il peut faire dans ces cas-là ?
Est-ce qu'il peut inciter des médecins à aller s'installer dans certaines villes moyennes qui sont dans des spécialités ? Est-ce que le conseil de l'ordre peut présenter cette dynamique ? Parce qu'en réalité, si ces médecins ne sont pas présents, ça veut dire qu'il y a un manque, ça veut dire qu'il y a des opportunités pour des jeunes médecins ou même des médecins qui quittent le secteur public qui pourraient s'installer dans ces villes-là.
Oui, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 7000 médecins de 7000 compétences là, qui sont à l'étranger. Il faut essayer quand même de les inciter à retourner au pays. On a été parmi les médecins qui ont été motivés dans les années 90 et 2000 à retourner au pays après une formation à l'étranger. Il y en a d'autres qui sont restés. Moi, j'ai plein de collègues là, qui sont restés en France ou en Europe. Là,
alors, s'ils nous écoutent sur Internet, certains de vos confrères qui sont ailleurs, vous avez un message à leur dire, c'est quoi?
Pour leur dire tapis rouge et qu'ils viennent. Exactement. Le pays en a vraiment besoin. Il y a un besoin, surtout de certaines spécialités. Il y a un grand besoin dans le cadre de la neurochirurgie moderne et la cancérologie et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a un manque.
Et surtout, si vous avez de l'expérience, évidemment, rejoignez-nous parce que nos concitoyens ont besoin. Toute dernière question, mon cher Mehdi, allez.
Est-ce que votre holding est présent à l'international?
Écoutez, elle est présente autrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clinique à l'étranger. On n'a pas de clinique à l'étranger, mais on a quand même des conventions très, très importantes avec certains pays africains, spécialement africains. Le RDC, le Niger, le Gabon, il y a plein de pays avec on a tissé des liens. Et qui font des évacuations sanitaires régulièrement à partir de leur pays vers, les cliniques de notre groupe. Et ça permet quand même de générer des chiffres assez importants là pour qu'on devise. Et malheureusement, là, on n'a pas de retour de la part de l'État. Il n'y a pas d'incitation comme ce qui se fait pour les hôtels dans le cadre du tourisme tout court. Là, on ne fait pas de tourisme médical. Malheureusement, on traite des malades qui sont lourds. Et on fait rentrer quand même de la devise. Et on aimerait bien avoir des incitations comme qu'il n'y ait pas de poids de mesure. Pourquoi inciter les hôtels? Parce qu'ils font rentrer avec tout le respect pour certains touristes qui font trop de bonnes affaires avec le Maroc en restant une semaine dans un hôtel 4 ou 5 étoiles avec 400-500 euros. Alors que nous, on fait rentrer quand même de la devise lourde. Là, pour la chirurgie cardiaque, c'est du 15 000 euros, 14 000 euros. C'est de la bonne devise quand même.
Il y a des vraies opportunités dans ce sens pour le Maroc?
Ah oui, beaucoup. Il faut faciliter la tâche.
Merci beaucoup, Dr. Roche Détali. Vous allez rester à nos côtés jusqu'à la fin de ce libre-échange.
Le Zoom de libre-échange.
Alors, le Zoom de cette semaine, je vais le consacrer évidemment à cette loi 131-13. J'espère que je ne me suis pas trompé sur le numéro de la loi. C'est une loi qui a pour vocation de favoriser l'entrée dans le capital de différents investisseurs pour pouvoir permettre aux cliniques de se développer et ne pas être simplement et seulement la propriété de médecins, mais qu'elles soient aussi l'occasion de structures qui puissent prendre leur envol convenablement. Nous avons cependant assisté depuis l'arrivée de cette nouvelle loi à beaucoup de mouvements, souvent des rachats de cliniques, voire même des rachats et des reventes de cliniques. Nous avons aussi observé dans notre pays tout un certain nombre de spécialistes de l'investissement dans la santé privée venir de l'étranger pour regarder comment ils pouvaient saisir ces opportunités. Mais là, nous avons affaire à un cas tout particulier parce qu'il s'agit d'un cas de création de nouvelles structures dédiées à apporter une offre médicale et un service dans différentes régions. Et je crois que quelque part, c'est le fait de mettre sous la lumière un investissement qui vient rajouter quelque chose de plus à notre pays qui me semble être intéressant à souligner. Parce que, in fine, ne l'oublions pas, cette loi a pour vocation, à mon avis, dans l'esprit du législateur, de développer une offre de soins et d'améliorer les infrastructures et tout cela, évidemment, au service des citoyens. Merci, Dr. Rojdi Talib, de nous avoir rappelé qu'au Maroc, nous ne sommes qu'à 0,9 lits. Et pas toujours des lits de qualité, hein, avec tous les services qui vont avec. Ça veut dire qu'il y a des vraies opportunités. Je vous laisse le mot de la fin.
Le mot de la fin.
Le mot de la fin, d'abord, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur un secteur qui est très important là, pour le citoyen et la citoyenne marocaine. Et mon souhait, c'est de voir l'État marocain nous donner un coup de main et nous faciliter un peu la tâche. Et je peux vous dire que le salut...
Concrètement, comment?
Le salut de la santé, de la problématique de la santé, passera par le privé.
Et qu'est-ce que l'État peut faire?
Nous inciter. Nous inciter sur le plan fiscal, nous inciter sur le plan d'accompagnement, sur le plan par exemple, dans le cadre de l'investissement de l'AMDI, comme je l'ai toujours répété haut et fort. Quand on investit plus de 100 millions de dirhams, on a des subventions, on a des incitations dans d'autres secteurs que le secteur de la santé. Quand j'avais déposé des dossiers pour des cliniques dont l'investissement dépasse les 100 millions de dirhams, les dossiers ont été rejetés.
Ok, la commission d'investissement n'a pas validé votre
n'a
dossier.
Pas validé mon dossier.
Et évidemment, il s'agit d'investisseurs nationaux. Et merci beaucoup, docteur Talib. Et c'est clair que vous exprimez ici une incompréhension parce que cet investissement, il est bien fait. Il est bien fait chez nous, évidemment, en prenant les risques et les engagements qu'il faut. Très belle émission avec un secteur qu'on découvre et pour lequel nous mettons un peu de lumière pour nos auditrices, nos auditeurs. Rendez-vous même heure, même endroit la semaine prochaine. Vous savez où ça se passe, c'est sur Aswat. C'est avec plaisir que je vous y retrouverai. Merci, docteur Rojdi.
Merci,
Mehdi Moutalib. À la semaine prochaine sur Aswat.